Colabrognon de Romain Rolland, cinquième partie. Enfin, nous arriva à main. L'on finit toujours par arriver, comme la moutarde après dîner. Nos oiseaux sortaient de table lorsqu'entra le dessert par nos mains apportées. Mais ils en furent quittes pour recommencer. Oiseaux mangent toujours. Nos messieurs du conseil, aux approches du château, avaient eu soin de faire un arrêt pénultième afin de revêtir leurs robes d'apparat, à l'abri du soleil, soigneusement pliées, leurs belles robes de lumière, chaudes aux yeux, riantes au cœur, de soie verte pour le maire et de laine jaune clair pour ses quatre compères. On eût dit un concombre et quatre potirons. Nous entrâmes en faisant sonner nos instruments. Au bruit, l'on vit sortir des fenêtres les têtes des valets désœuvrés. Nos quatre vêtus de laine et l'habillé de soie montèrent le perron, à la porte duquel daignèrent se montrer, je ne voyais pas très bien, sur deux fraises deux têtes. À la fraise, on connaît la bête. Frisée, enrubannée, ainsi que deux moutons. Nous autres, croque-musique et croquants, nous restions au milieu de la cour, en sorte que je ne pus entendre de si loin le beau discours latin que fit notre notaire. Mais je m'en consolais, car crois que maître Pierre fut seul à l'écouter. Je me gardais bien, en revanche, de manquer le spectacle de ma petite Claudie, montant à pas menus les marches de l'escalier, ainsi qu'une Marie dans la présentation, et serrant contre son giron, entre ses deux menottes, la corbeille de biscuits étagée qui montait jusqu'à son menton. Elle n'en perdit pas un. Elle les couvait des yeux et des bras, la gourmande, la friponne, la mignonne. Dieu, je l'aurais mangée. Le charme de l'enfance est comme une musique. Elle entre dans les cœurs plus sûrement que celle que nous exécutions. Les plus fiers s'humanisent. On redevient enfant, on oublie un instant son orgueil et son rang. Mademoiselle de Termes sourit à ma Claudie, gentiment, la baisa, l'assit sur ses genoux, la prit par le menton, et, rompant, omitant un biscuit, elle dit « Tends ton bec, partageons !» et mit le plus gros bout dans le petit four rond. Alors, moi, dans ma joie, je criai à pleine voix « Vive la bonne et belle, la fleur du Nivernois !» Et sur mon flageolet, je fis un joyeux trait qui fendit l'air, ainsi qu'avec son cri aigu, l'hirondelle. Tous, aussitôt de rire en se tournant vers moi, et Glody bat des mains en criant « Père Grand !» Monsieur Danois m'appelle « C'est ce fou de Brognon !» Il s'y connaît, ma foi, il l'est autant que moi. Il me fait signe. Je viens avec mon flageolet, je monte d'un pas guilleré et je salue. Courtois de bouche, main au bonnet, peu couste et bonnet. Je salue à droite, à gauche, je salue devant, derrière, je salue chacun, chacune. Et cependant, d'un œil discret, j'observe et tâche de faire le tour de la demoiselle, suspendue dans son vaste vertu gadin, on eût dit un battant de cloche. Et la déshabillant, en pensée, cela s'entend. Je ris de l'avoir perdue, toute menue et nue dessous ses affluitiaux. Elle était longue et mince, un peu noire de peau et très blanche de poudre. De beaux yeux bruns luisants comme des escarboucles, nez de petits gorées fureteurs et gourmands, bouche bonne à baiser, grasse et rouge, et sur les joues des friselis de boucles. Elle dit en me voyant, d'un air condescendant, « C'est à vous, cette belle enfant ?» Je réplique finement, « Que savons-nous, madame ? Voici monsieur mon gendre, c'est à lui d'en répondre. Je n'en réponds pour lui. En tout cas, c'est notre bien. Aucun de nous le réclame. Ce n'est pas comme l'argent. Enfants sont richesses de pauvres gens. » Elle daigna sourire, et mon sire danois s'esclaffa à grand bruit. Florimond rit aussi, mais son rire était jaune. Moi, je restais sérieux, je faisais le bec jaune. Alors, l'homme à la fraise et la dame à la cloche voulurent condescendre à me questionner. Ils m'avaient pris tous deux pour un ménétrier, sur ce que pouvait bien rapporter mon métier. Je réponds, comme de juste, autant que rien, sans dire ce que je faisais d'ailleurs. Pourquoi l'aurais-je dit? Ils ne me le demandaient point. J'attendais, je voulais voir, je me divertissais. Je trouve assez plaisante la hauteur familière et cérémonieuse que tous ces beaux messieurs, ces riches, croient devoir prendre avec ceux qui n'ont rien et sont gueux. Il semble que toujours ils leur fassent la leçon. Un pauvre est un enfant, il n'a pas sa raison. Et puis, on ne le dit pas, mais on le pense. C'est sa faute. Dieu l'a puni, c'est bien. Le bon Dieu soit béni. Comme si je n'étais point là. Le maillebois disait tout haut à sa commère. Puisqu'aussi bien, madame, nous n'avons rien à faire, profitons de ce pauvre air. Il a l'air un peu niais, il va de ci, de là, sonnant du flageolet. Il doit connaître bien le peuple des cabarets. Enquérons-nous de lui de ce que la province pense, si tant est... Chut! Si tant est qu'elle pense. On me demanda donc... Eh bien, bonhomme, dis-nous, quel est l'esprit du pays? Je répète. L'esprit? En prenant l'air d'un abruti. Et je clignai de l'œil à un gros sieur danois qui se tirait la barbe et me laissait aller, riant sous sa large patte. L'esprit ne m'a pas l'air de courir la province, dit l'autre avec ironie. Je te demande, bonhomme, ce qu'on pense, ce qu'on croit. Est-on bon catholique? Est-on dévoué au roi? Je réponds. Dieu est grand et le roi est très grand. On les aime bien tous deux. Et que pense-t-on des princes? Ce sont de grands messieurs. On est donc avec eux? Oui, dame, monseigneur, oui. Et contre Concini? On est pour lui aussi. Comment, diable, comment? Mais ils sont ennemis. Je ne dis pas, cela se peut. On est pour tous les deux. Il faut choisir, pardieu. Est-ce qu'il le faut, monsieur? Ne puis m'en dispenser? En ce cas, je le veux. Pour qui est-ce que je suis? Monsieur, je vous le dirai un de ces quatre lundis. Je m'en vais y penser. Mais il me faut le temps. Hé, qu'est-ce que tu attends? Mais, monsieur, de savoir qui sera le plus fort. Coquin, n'as-tu pas honte? N'es-tu pas capable de distinguer le jour de la nuit et le roi de ses ennemis? Ma foi, monsieur, nenni, vous m'en demandez trop. Je vois bien qu'il fait jour, je ne suis pas aveugle. Mais entre gens du roi et gens des seigneurs princes, pour ce qui est de faire choix, vraiment, je ne saurais dire lesquels boivent le mieux et font plus de dégâts. Je n'en dis point de mal. Ils ont bon appétit, c'est qu'ils se portent bien. Bonne santé à vous, je souhaite pareillement. Les beaux mangeurs me plaisent. J'en ferai bien autant. Mais pour ne rien sceller, j'aime mieux mes amis qui mangent chez les autres. Drôle. Tu n'aimes donc rien? Monsieur, j'aime mon bien. Ne peux-tu l'immoler à ton maître, le roi? Je le veux bien, monsieur, si je ne puis autrement. Mais je voudrais pourtant savoir, si nous n'étions en France quelques-uns qui aimons nos vignes et nos champs, ce que le roi pourrait se mettre sous la dent. À chacun son métier. Les uns mangent, les autres sont mangés. La politique est l'art de manger. Pauvres gens, que pourrions-nous en faire? À vous la politique et à nous notre terre. Avoir une opinion, ce n'est pas notre affaire. Nous sommes ignorants. Que savons-nous? Sinon, comme Adam notre père. Il fut aussi le vôtre, dit-on, mais quant à moi, je n'en crois rien. Pardon, votre cousin, peut-être. Que savons-nous? Sinon, donc, engrosser la terre et la rendre féconde. Creuser, labourer ses flancs, semer, faire pousser l'avoine et le froment, tailler, greffer la vigne, faucher, moissonner les gerbes, battre le grain, fouler la grappe, faire le vin, le pain, fendre le bois, tailler la pierre, couper le drap, coudre le cuir, forger le fer, ciseler, menuiser, creuser les canaux et les routes, bâtir, dresser les villes avec leurs cathédrales, ajuster de nos mains sur le front de la terre la parure des jardins, faire fleurir sur les murs et les panneaux de bois l'enchantement de la lumière, dévêtir de la gaine de pierre qui les enserre les beaux corps blancs et nus, attraper à l'affût dans l'air les sons qui passent et les emprisonner dans les flancs brun dorés d'un violon gémissant ou dans ma flûte creuse, enfin nous rendre maîtres de la terre de France, du feu, de l'eau, de l'air, des quatre éléments et les faire servir à votre amusement. Que savons-nous de plus ? Et comment aurions-nous la prétention de croire que nous comprenions rien aux affaires publiques, aux querelles des princes, sacrés desseins du roi, jeux de la politique et autres métaphysiques? Il ne faut, monsieur, péter plus haut que son cul. Nous sommes bêtes de somme et faits pour être battus. D'accord, mais de quel point il nous agrée le plus? Et quelle trique nous est la plus moelleuse au dos? Grave question, monsieur. Trop forte pour mon cerveau. À vous dire le vrai, l'un ou l'autre, peu manchot. Faudrait, pour vous répondre, avoir la trique à la main, soupeser l'une et l'autre, et l'essayer très bien. Faute de quoi? Patience. Souffre, souffre, enclumeau. Souffre, tant qu'est enclumeau. Frappe, quand tu seras marteau. L'autre, indécis, me regardait, le nez fronçait, et ne savait s'il devait rire ou se fâcher. Lorsqu'un écuyer de la suite, qui m'avait vu jadis chez feu notre bon duc de Nivernois, dit « Monseigneur, je le connais, l'original. Bon ouvrier, fin menuisier, grand parolier. Il est sculpteur de son métier. » Le noble sieur ne sembla point, pour cet avis, modifier son opinion sur Brognon. Ne commença de témoigner quelque intérêt à sa chétive personne. Chétive, émis-la, mes fils, par modestie, car je pèse un peu moins qu'un muide. Que lorsqu'il sut par l'écuyer et par son hôte, monce danois, que de mes œuvres tel et tel prince faisait cas. Il ne fut pas lors le dernier à s'extasier sur la fontaine quand la cour on lui montra, par moi sculptée, représentant fille troussée qui porte dans son tablier deux canards se débattant, ouvrant le bec, l'aile battant. Après, il vit dans le château des meubles miens et des panneaux. Monsieur danois se pavanait. Ces riches bêtes, on dirait que cette œuvre qu'ils ont payée de leur denier, ils l'ont créée. Le maillebois, pour m'honorer, jugea séant de s'étonner que je restasse en ce pays, étouffé, loin des grands esprits de Paris, et demeurasse cantonné en ses travaux de patience, de vérité, rien d'inventé, d'attention nulle envolée, d'observation, point d'idée, point de symbole, allégorie, philosophie, mythologie, bref, rien de tout ce qui assure le connaisseur que c'est de la grande sculpture. Un grand seigneur n'admire rien qui ne soit grand. Je répondis modestement, « Humble je suis, un peu bené, que je savais très bien le peu que je valais, que chacun dans ses limites doit s'enfermer. Un pauvre homme de notre sorte n'a rien vu, rien entendu, ne connaît rien, donc il se tient, quand il est sage, à l'humble étage du Parnasse, où l'on s'abstient de tout dessein vaste et sublime. » Et de la cime, où se profilent les ailes du sacré cheval, détournant ses yeux effrayés, il creuse en bas, au pied du mont, la carrière dont les pierres pourront servir à sa maison. D'esprit borné par pauvreté, il ne fait rien, ne conçoit rien qui ne soit d'usage quotidien. L'art utile, voilà son lot. L'art utile, les deux mots jurent ensemble, dit Monceau. Il n'est de beau que l'inutile. Grande parole, acquiesçai-je. Il est bien vrai, partout dans l'art et dans la vie, rien n'est plus beau qu'un diamant, Un prince? Un roi? Un grand seigneur? Ou une fleur? Il s'en alla, content de moi. Monsieur Danois me prit le bras et me souffla. « Maudit farceur, as-tu fini de te gausser? Oui, fais la bête. Agnelé, bé, je te connais, ne dis pas non. Pour ce beau fraisier de Paris, cueille à ton gré. Vas-y, mon fils. Mais si jamais tu t'avisais de t'attaquer à moi aussi, garde Brugnon, mon garçon, car tu auras du bâton. » Je protestais. « Moi, monseigneur, m'attaquer à votre grandeur, mon bienfaiteur, mon protecteur, est-il possible de prêter à Brugnon cette noirceur? Passe encore d'être noir, mais par Dieu, d'être bête, à d'autres, s'il vous plaît, ce n'est pas notre fait. Grand merci, j'aime trop ma peau pour ne pas bien respecter celle qui sait se faire respecter. Je ne m'y frotte, ouais, pas si sot. » Car vous êtes non seulement le plus fort, cela va de soi, mais beaucoup plus malin que moi. Je ne suis qu'un renardeau, près de renard en son château. Combien de tours en votre sac? Que vous en avez mis dedans, jeunes et vieux, fous et prudents? Il s'épanouit. Rien ne plaît tant que d'être loué pour le talent qu'on a le moins. C'est bon, dit-il. « Maître bavard, laissons mon sac. Voyons plutôt ce que tu portes dans le tien, car je me doute que si tu viens, ce n'est pour rien. »« Voyez, voyez, où l'avez ? » dis-je. « Encore deviné. On est de verre, vous lisez dans les cœurs, tout comme Dieu le Père. » Je déballai mes deux panneaux ainsi qu'une œuvre italienne. Une fortune sur sa roue, jadis achetée à Mantoue. Que je donnais, ne sais comment, vieille étourdie, comme mienne. On les loua modérément. Ensuite, quelle confusion! Je leur montrai une œuvre mienne, un médaillon de jouvencelle, que je donnais pour italienne. On s'écria, se récria, on fit des « oh !» on fit des « ah !» on pâma d'admiration. Le maillebois qui en béait dit qu'on y voyait le reflet du ciel latin, du sol deux fois béni des dieux, de Jésus-Christ et de Jupin. Monsieur Danois, qui en braillait, m'en compta 36 ducats, de l'autre 3. Nous repartîmes vers le soir. En revenant pour amuser la compagnie, je racontai qu'une autre fois, monsieur le duc de Bellegarde était venu à Clamcy tirer l'oiseau. Le bon seigneur ne voyait pas à 4 pas. J'étais chargé, quand il tirait, de faire choir l'oiseau de bois, et en son lieu de présenter, prompt et adroit, un autre droit au cœur troué. On rit beaucoup. Et après moi, chacun à son tour dégoisa quelques bons traits de nos seigneurs. Ces bons seigneurs, quand ils s'ennuient en leur grandeur royalement, ah, que ne peuvent-ils savoir combien ils sont pour nous plaisants? Mais j'attendis, pour le récit du médaillon, que nous fussions, la porte close, à la maison. Quand il le sut, mon Florimond me reprocha amèrement d'avoir vendu à si bon compte, comme mienne, l'œuvre italienne, puisqu'ils avaient si fort goûté et payé celle qui ne l'était que de nom. Je répondis que je voulais me divertir des gens. Oui, bien, mais les plumer, et pour cela, non. Il s'acharnait, me demandant avec aigreur la belle jambe que cela pouvait me faire de m'amuser à mes dépens. Que sert de se moquer des gens si l'on en a pour son argent? Laure, Martine, ma bonne fille, lui dit avec grande sagesse, « Ainsi nous sommes, Florimond, petits et grands, dans la famille, toujours contents. Toujours contents, et nous riant des contes que nous nous contons. Va, ne t'en plains pas, mon bon, car c'est à cela que tu dois de n'être pas dit corps encore. De savoir que je puis te tromper à tout moment me cause tant d'amusement que je me passe de le faire. Mais ne prends pas un air si sombre, point de regret, car c'est comme si tu l'étais. Rentre tes cornes, limaçon, j'en vois l'ombre. » Chapitre 7. La peste. Premier jour de juillet. On dit bien « Le mal s'en va à pied, mais il vient à cheval. » Il s'est mis postillon du roulier d'Orléans pour nous rendre visite. Lundi de la semaine passée, un cas de pestilence fut semé à Saint-Fargeau. Mauvaise graine, prompte croissance. À la fin de la semaine, il y en avait 10 autres. Puis, se rapprochant de nous, hier, la peste éclate à Coulanges-la-Vineuse. Beau bruit dans la mare aux canards. Tous les braves ont pris les jambes à leur cou. Nous avons emballé femmes, enfants et oisons, et nous les avons expédiés au loin à Monténoison. À quelque chose, malheur est bon. N'y a plus de caquet dans ma maison. Florimond est parti aussi avec les dames, prétextant, le capon, et qu'il ne pouvait quitter sa Martine près d'accoucher. Des gros messieurs, beaucoup, trouvèrent de bonnes raisons pour faire un tour de promenade, la voiture attelée. Le jour leur sembla bon pour aller voir comment se portait leur moisson. Nous autres, qui restions, nous faisions les farceurs. Nous nous gaussions de ceux qui prenaient des précautions. Messieurs les échevins avaient posé des gardes aux portes de la ville, sur la route d'Auxerre, avec ordre sévère de chasser tous les pauvres émanant du dehors qui essaieraient d'entrer. Pour les autres, gens à huppes et bourgeois dont la bourse était saine, ils devaient se soumettre du moins à la visite de nos 3 médecins, maître Étienne Loiseau, maître Martin Frottier et maître Philibert Desvaux. Affublés pour parer aux assauts du fléau d'un long nez plein d'onguents, d'un masque et de lunettes. Cela nous faisait bien rire. Et maître Martin Frottier, qui était un bon homme, ne put tenir son sérieux. Il arracha son nez, disant qu'il ne se souciait de faire la coqcigrue et qu'il ne croyait point à ses billevesées. Oui, mais il en mourut. Il est vrai que maître Étienne Loiseau, qui croyait à son nez et couchait avec lui, mourut ni plus ni moins. Et seul en réchappa maître Philibert Desvaux, qui, plus avisé que ses confrères, abandonna, non son nez, mais son poste. Ça, je brûle l'étape, et me voici déjà à la queue de l'histoire, avant d'avoir seulement arrondi mon exorde. Recommençons, mon fils, et de nouveau prenons notre chèvre à la barbe. Cette fois, la tiens-tu ? Donc, nous faisions les bons Richard sans peur. On se croyait si sûr que la peste ne nous ferait pas l'honneur de sa visite. Elle avait le nez fin, disait-on. Le parfum de nos tanneries l'offusquait. Chacun sait qu'il n'y a rien de plus sain. La dernière fois qu'elle vint dans le pays, c'était vers l'an 1580. J'avais l'âge d'un vieux bœuf, 14 ans. Elle avança le nez jusqu'au seuil de notre huis, et puis, l'ayant flairé, s'en était retournée. Ce fut alors, nous les avons bien plaisantés depuis, que les gens de Châtel-Sansoir, mécontents de leur patron, le grand saint potentien qui les protégeait mal, l'avaient mis à la porte, prirent à laisser un autre, puis un autre, puis un autre. Ils en changèrent 7 fois, élisant tour à tour Savinien et Pèlerin, Philibert et Hilaire. Même, ne sachant plus à quel saint se vouer, ils se vouèrent à celui, les gaillards, d'une sainte, et faute de potentien, ils prirent potentiane. Nous nous remémorions en riant cette histoire, bons lurons, fanfarons et vaillants esprits forts. Pour montrer que nous ne donnions dans ces superstitions, non plus que dans celles des médecins, échevins, nous allâmes bravement à la porte du Chastelot faire la conversation par-dessus les fossés avec ceux qui restaient sur l'autre rive échouée. Même, par fanfanterie, certains trouvaient moyen de se glisser dehors et d'aller boire une pinte dans une auberge proche avec quelqu'un de ceux au nez de qui la porte du paradis était fermée, voire avec un des anges postés pour la garder, car ils ne prenaient pas leur faction au sérieux. Moi, je faisais comme eux. Pouvais-je les laisser seuls? Était-il supportable que d'autres à ma barbe s'ébaudissent, s'ébattissent et dégustassent ensemble fraîches nouvelles et vins frais? J'en eusse crevé de dépit. Je sortis donc, voyant un vieux fermier que je connaissais bien, le père Grattepain de Mailly-le-Château. Nous trinquâmes ensemble. C'était un gros réjoui, rond, rouge et râblé, qui luisait au soleil de sueur et de santé. Il faisait le glorieux, encore bien plus que moi, narguant la maladie et disant que c'était invention des médecins. Il n'y avait que de pauvres hères, à l'en croire, qui mouraient, non de mal, mais de peur. Il me disait « Je vous donne ma recette pour rien. Tiens tes pieds bien au chaud, tiens vide tes boyaux, ne vois pas Marguerite, de tout mal sera quitte. » Nous passâmes une bonne heure à nous souffler dans le nez. Il avait la manie de vous taper la main et de vous pétrir la cuisse ou le bras en parlant. Je n'y pensais pas, alors. J'y pensais le lendemain. Le lendemain, le premier mot que me dit mon apprenti fut « Vous savez, patron, le père Grattepain est mort. » Ah ! Je ne fus pas fier. J'en eus froid dans le dos. Je me dis « Mon pauvre ami, tu peux graisser tes bottes. Ton histoire est finie ou ne tardera guère. » Je vais à mon établi, je me mets à bricoler afin de me distraire. Mais je vous prie de croire que je n'avais guère la tête à ce que je fabriquais. Je pensais « Sotte bête, cela t'apprendra à faire le malin. » Mais en Bourgogne, nous ne sommes pas hommes à nous casser la tête sur ce qu'il fallait faire le jour d'avant-hier. Nous sommes dans cette journée. Par Saint-Martin, tenons-nous-y. Il s'agit de se défendre. L'ennemi ne m'a pas encore. Je songeais un moment à demander conseil à la boutique de Saint-Côme. Les médecins, vous m'entendez bien. Mais je n'eus garde et n'en fis rien. J'avais, malgré mon trouble, suffisamment gardé du bon sens de chez nous pour me dire « Fils, les médecins n'en savent pas plus que nous. Ils prendront ta pécune, et pour tout ton potage, ils t'enverront gésir dans un parc apesteux, où tu ne manqueras point d'empester tout à fait. Garde-toi de leur rien dire. Tu n'es pas folle, peut-être. S'il ne s'agit que de mourir, nous le ferons bien sans eux. Et par Dieu, ainsi qu'il est écrit, en dépit des médecins, nous vivrons jusqu'au trépas. » J'avais beau m'étourdir et faire le flambard, je commençais à me sentir l'estomac remué. Je me tâtais ici, puis là, puis... Aïe ! Cette fois, c'est elle ! Et le pire, venu l'heure du dîner, devant une potée de gras haricots rouges, cuits dans le vin avec des tranches de salé. Aujourd'hui que j'en parle, j'en pleure de regret. Je n'eus pas le courage d'ouvrir les mandibules. Je pensais, le cœur serré... « Assurément, je m'en vas. L'appétit est défunt. C'est le commencement de la fin. » Or, donc, sachons au moins mettre nos affaires en ordre. Si je me laisse mourir ici, ces brigands d'échevins feront brûler ma maison sous prétexte, sornette, que d'autres y prendront la peste. Une maison toute neuve. Faut-il que le monde soit méchant ou soit bête? Plutôt que cela soit, j'aimerais mieux... Sur mon fumier crevé, nous les attraperons bien. Ne perdons pas de temps. Je me lève, je mets mon habit le plus vieil, je prends 3 ou 4 bons livres, quelques belles sentences, des contes gras de Gaulle, des apophtegmes de Rome, les mots dorés de Caton, les serrés de Boucher et le nouveau Plutarque de Gilles Corrosé. Je les mets dans ma poche avec une chandelle et un quignon de pain. Je congédie l'apprenti. Je ferme mon logis et bravement je vas à Moncouta, hors la ville, passé la dernière maison, sur la route de Beaumont. Le logis n'est pas grand. Une bicoque, une pièce de débarras où l'on met les outils, une vieille paillasse et une chaise défoncée. Si l'on doit les brûler, le mal ne sera pas grand. Je n'étais pas arrivé que je commençais de claquer du bec, comme un corbeau. La fièvre me brûlait. J'avais un point de côté et le gésier tordu, comme s'il était retourné. Lors, que fis-je, braves gens? Que vais-je vous raconter? Quels actes héroïques, quel magnanime front opposé, à l'instar des grands messieurs de Rome, à la fortune ennemie et au mal de ventre? Braves gens, J'étais seule, personne ne me voyait. Vous pensez si je me suis gênée pour jouer devant les murs le Régulus romain? Je me jetai sur la paillasse et je me mis à braire. N'en avez-vous rien ouï? Ma voix était fort claire, elle aurait pu porter jusqu'à l'arbre de Sambert. Ah, geignai-je, seigneur, se peut-il que vous persécutiez un si bon petit homme qui ne vous a rien fait? Oh, ma tête, oh, mes flancs, qu'il est dur de s'en aller à la fleur de ses ans! Hélas, tenez-vous vraiment à me rappeler si tôt? Oh, mon dos! Certes, je serai charmé, honoré, veux-je dire, de vous rendre visite, mais puisque nous devons toujours nous voir, un peu plus tard, un peu plus tôt, à quoi bon cette hâte? Ah, la rate! Je ne suis pas pressée, seigneur, je ne suis rien qu'un pauvre vermisseau. S'il n'est d'autre moyen, soit faite votre volonté. Vous le voyez, je suis humble et doux, résigné. Sacripant, veux-tu bien lever le camp? Qu'a donc cet animal à me ronger le côté? Lorsque j'eus bien braillé, je n'en souffrais pas moins, mais j'avais dépensé ma vigueur patitique. Je me dis, tu perds ton temps. Ou il n'a pas d'oreille, ou ce sera tout comme. S'il est vrai, comme on dit, que tu es son image, il n'en fera qu'à sa tête. Tu t'égosilles en vain. Ménage ton haleine. Tu n'en as plus peut-être que pour une heure ou deux, et tu vas, imbécile, la gaspiller au vent. Jouissons de ce qui nous reste, de cette belle vieille carcasse qu'il nous faudra quitter. Las, mon ami, ce sera bien malgré moi. On ne meurt qu'une fois. Au moins, satisfaisons notre curiosité. Voyons comment on fait pour sortir de sa peau. Lorsque j'étais enfant, personne ne savait mieux, avec des branches de saule, fabriquer de beaux flutiaux. Du manche de mon couteau, je cognai sur l'écorce jusqu'à ce qu'elle se dépiautât. Je suppose que celui qui me regarde de là-haut est en train de s'amuser de même avec la mienne. Hardi, s'en ira-t-elle? Aïe, le coup était bon. Est-il permis qu'un homme de cet âge se plaise à des balivernes de petits garçons? Ça, brognon, ne lâche point, et tandis que l'écorce tient encore, observons et notons ce qui se passe dessous. Examinons ce coffre, écumons nos pensées, étudions, ruminons, remâchons les humeurs, qui dans mon pancréas se remuent, font remous et querelles d'allemand. Savourons ces coliques, sondons et retâtons nos tripes et nos rognons. Ainsi je me contemple. De temps en temps, j'interromps pour brailler mes investigations. La nuit ne passait guère. J'allume ma chandelle, je la fiche dans le goulot d'une vieille bouteille. Elle fleurait le cassis, mais le cassis était loin, image de ce que je promettais d'être avant le lendemain. Le corps était parti, il ne restait plus que l'âme. Tordu sur ma paillasse, je m'efforçai de lire. Les apophthegmes héroïques des Romains n'eurent aucun succès. Oh, diable, c'est hableur! Chacun est né pour aller à Rome. Je hais le sot orgueil. Je veux avoir le droit de me plaindre, tout mon sou, lorsque j'ai la colique. Oui, mais lorsqu'elle s'arrête, je veux rire, si je puis. Et j'ai ri. Vous ne me croirez pas? Mais alors que j'étais tout dolent, comme une noix en un boisseau, que me claquaient les dents, en ouvrant au hasard le livre des facéties de ce bon monsieur Boucher, j'en trouvai une si belle, croustillante et dorée, vint bon Dieu, que je suis partie d'un éclat de rire. Je me disais, « C'est trop bête, ne ris donc pas, tu vas te faire du mal. » Ah bien, je n'arrêtais de rire que pour braire, de braire que pour rire. Et je braie et je ris. La peste en riait aussi. Ah, mon pauvre petit gars, j'ai tibré, j'ai tiri. Quand vint le point du jour, j'étais bon à mettre en terre. Je ne tenais plus debout. En me traînant à genoux, je parvins à l'unique lucarne qui donnait sur la route. Au premier qui passa, j'appelai d'une voix de peau cassée. Il n'eut pas besoin pour comprendre, d'entendre. Il me vit, il se sauva avec des signes de croix. Moins d'un quart d'heure après, j'avais l'honneur d'avoir deux gardes devant ma maison. et défense me fut faite de franchir la porte d'Issel. Hélas, je n'y songeais guère. Je priai qu'on allât chercher mon vieil ami, maître Paillard, le notaire à Dornecy, afin de rédiger mes dernières volontés. Mais ils avaient si peur qu'ils craignaient jusqu'au vent de mes maux. Et je crois, ma parole, que par peur de la peste, ils se bouchaient les oreilles. Enfin, un brave petit champi, garde d'Oueil, bon petit cœur, qui me voulait du bien, parce que je l'avais surpris une fois picorant mes cerises, et que lui avait dit « Beaumerle, pendant que tu y es, cueille-en aussi pour moi !» se faufila près de la fenêtre, écouta et cria « Monsieur Brognon, j'y vas !» Ce qui se passa ensuite, je serai bien en peine pour vous le raconter. Je sais que de longues heures, vautré sur ma paillasse, de fièvre je tirai la langue comme un veau. Des claquements de fouet, des grelots sur la route, une grosse voix connue, je pense. Paillard est venu. Je cherche à me relever. Ah, vertu de ma vie, il me semblait que je portais Saint-Martin sur ma nuque et Saint-Bert sur mon croupion. Je me dis, quand il y aurait encore les roches de Basseville, il faut que tu y ailles. Je tenais, voyez-vous, à faire enregistrer. J'avais eu le temps la nuit de ressasser ces pensées. Certaines dispositions, clauses testamentaires, qui me permit d'avantager Martine et sa Claudie, sans contestation de mes quatre garçons. Je hisse à la lucarne ma tête, qui pesait plus que Henriette, la grosse cloche. Elle tombait à droite, à gauche. J'aperçois sur la route deux bonnes grosses figures qui écarquillaient les yeux d'un air épouvanté. Chapitre 8. La mort de la vieille. Fin juillet. J'étais en train de reprendre goût à la vie. Je n'y eus pas beaucoup de peine, comme vous pouvez m'en croire. Même, je ne sais comment, je la trouvais encore plus succulente qu'avant. Tendre, moelleuse et dorée, cuite à point, croustillante, croquante sous la dent et fondant sur la langue. Appétit de ressuscité. Que Lazare dut bien manger. Un jour, donc, qu'après avoir joyeusement travaillé, j'étais à m'escrimer, avec mes compagnons, des armes de Samson, voilà qu'un paysan, qui venait du Morvan, entre. « Maître Colas, dit-il, j'ai vu avant-hier votre dame. »« Matin, tu as de la chance, dis-je, et comment va la vieille ?»« Très bien, elle s'en va. »« Où cela ?»« À toutes jambes, monsieur, vers un monde meilleur. » »« Il cessera de l'être, dit un mauvais plaisant. » Et un autre, « Elle s'en va, tu restes, à ta santé, Colas, un bonheur ne vient jamais seul. » Moi, pour faire comme les autres, j'étais ému tout de même. Je réplique, « Trinquons, Dieu aime l'homme qu'on perd quand il lui ôte sa femme, ne sachant plus qu'en faire. » Mais le vin me parut subitement piquette. Je ne pus finir mon verre, et prenant mon bâton, je partis sans même saluer la compagnie. Il criait « Où vas-tu? Quelle mouche te pique ?» J'étais bien loin déjà, je ne répondais pas, j'avais le cœur serré. Voyez-vous, on a beau ne pas aimer sa vieille, s'être fait enrager l'un l'autre, jour et nuit, durant 25 années, à l'heure où la Camarde est venue la chercher, celle qui, collée à vous dans le lit trop étroit, a mêlé si longtemps sa sueur à la vôtre, et qui, dans ses flancs maigres, fit lever la semence de la race que vous avez plantée, on sent là quelque chose qui vous étreint le gosier. C'est comme si un morceau de vous s'en allait. Et quoiqu'il ne soit pas beau, qu'il vous ait bien gêné, on a pitié de lui et de soi. On se plaint, on le plaint. Dieu me pardonne, on l'aime. J'arrivai le lendemain à la tombée de la nuit. Dès le premier coup d'œil, je vis que le grand sculpteur avait bien travaillé. Sous le rideau fripé de la chair craquelée, le visage de la mort, tragique, apparaissait. Mais ce qui me fut un signe plus certain de la fin, ce fut qu'en me voyant, elle me dit « Mon pauvre homme, tu n'es pas trop fatigué ?» À cet accent de bonté dont je fus tout remué, je me dis « Pas de doute, la pauvre vieille est finie, elle sera bonnie. » Je m'assis près du lit et je lui pris la main. Trop faible pour parler, elle me remerciait, des yeux, d'être venue. Pour la ragaillardir, essayant de plaisanter, je racontai comment, à la peste trop pressée, je venais de faire la nique. Elle n'en savait rien. Elle en fut si émue, diantre de maladroit, qu'elle eut une faiblesse et faillit passer. Quand elle reprit ses sens, sa langue lui revint. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Et sa méchanceté. La voilà qui se met, bredouillante et tremblante. Les mots ne voulaient point sortir, ou ils sortaient tout autre qu'elle voulait, alors elle enrageait. La voilà qui se met à m'agonir d'injures, disant que c'était honteux que je ne lui eusse rien dit, que je n'avais pas de cœur, que j'étais pire qu'un chien, que comme le sudit, j'eusse bien mérité de crever de colique tout seul sur mon fumier. Elle me débita maintes autres gentillesses. On voulait la calmer, on me disait « Va-t'en, tu vois, tu lui fais mal, éloigne-toi un moment. » Mais moi, je ris, me penchant sur son lit, et je dis « À la bonne heure, je te reconnais donc, il y a encore de l'espoir, tu es aussi méchante. » Et lui prenant la tête, sa vieille tête branlante, entre mes grosses mains, je l'embrassai de grand cœur, deux fois sur les deux joues. Et la seconde fois, elle pleura. Nous restâmes alors, tranquilles, sans parler, tous deux seuls dans la chambre, où dans la boiserie la vrillette frappait, à coup sec, le tic-tac de l'horloge funèbre. Les gens étaient allés dans la pièce à côté. Elle, péniblement, ahannait, et je vis qu'elle voulait parler. Je dis « Ne te fatigue pas, ma vieille, on s'est tout dit depuis 25 années, on se comprend sans parler. » Elle dit « On ne s'est rien dit, il faut que je parle, Colas, sans quoi le paradis, où je n'entrerai pas ?»«
Mais si, que je fis. »
« Sans quoi le paradis me serait plus amer que le fiel de l'enfer. Je fus pour toi, Colas, aigre et acariâtre. »
« mais non, que je fis. Un peu d'acidité, c'est bon pour la santé. »
Jalouse, colérique, querelleuse, grondeuse, de ma mauvaise humeur j'emplissais la maison, et je t'en ai fait voir de toutes les façons.
Je lui tapotai la main. « Ça ne fait rien, j'ai le cuir bon. »
Elle reprit sans souffle. « Mais c'est que je t'aimais. »
« Ça, si je m'en doutais, » fis-je en riant.
« Après tout, chacun a sa manière. »
« Mais que me l'as-tu dit? La tienne n'était pas claire. »
« Je t'aimais, » reprit-elle, « et toi, tu ne m'aimais pas. C'est pourquoi tu étais bon et moi j'étais mauvaise, car je te haïssais de ce que tu ne m'aimais. Et toi, tu t'en souciais. Tu avais ton rire, Colas, ton rire comme aujourd'hui. Dieu m'a-t-il fait souffrir. Tu t'encapuchonnais dedans contre la pluie. Et moi, je pouvais pleuvoir, jamais je ne parvenais, brigand, à t'arroser. Ah, que tu m'as fait de mal. Plus d'une fois, Colas, j'ai failli en crever.
« Ma pauvre femme, lui dis-je, c'est que je n'aime point l'eau. »
« Tu ris encore, coquin. Va, tu fais bien de rire. Le rire, ça vous tient chaud. À cette heure que le froid de la terre me monte aux jambes, je sens ce que vaut ton rire. Prête-moi ton manteau. « Ris tout en sous, mon homme, je ne t'en veux plus. Et toi, Colas, pardonne-moi. »
« Tu fus une brave femme, dis-je, propre, forte et fidèle. Tu ne fus peut-être pas plaisante tous les jours, mais personne n'est parfait. Ce serait de l'irrespect envers celui là-haut qui l'est seul, m'a-t-on dit. Je n'y ai point été voir. Et dans les heures noires, je ne dis celle de la nuit où tous les chats sont gris, mais celle des années de misère et de vaches maigres. Tu n'étais plus tant laide. Tu fus brave, jamais tu ne renaclas à la peine. Et ta maussaderie me semblait presque belle lorsque tu l'exerçais contre le mauvais sort, sans céder d'une semelle. Ne nous tourmentons plus maintenant du passé.
C'est assez de la voir, une bonne fois, portée, sans plier, sans crier, et sans garder la marque d'une honte acceptée. Ce qui est fait, et n'est plus à refaire. Le fardeau est à terre. Au maître maintenant de le peser, s'il veut. Cela ne nous regarde plus. Ouf, respirons, mon vieux. Nous n'avons plus maintenant qu'à déboucler la sangle qui nous serrait le dos, à frotter nos doigts gourds, nos épaules meurtries, et à faire notre trou en terre, pour dormir, bouche ouverte, en ronflant comme un orgue. Requiescat, paix à ceux qui ont bien travaillé, du grand sommeil de l'éternité. Elle m'écoutait, les yeux fermés, les bras croisés. Quand j'eus fini, les yeux rouvrit, sa main tendit. « Mon ami, bonne nuit, tu m'éveilleras demain. » Alors, en femme d'ordre, toute droite, tout de son long, sur le lit elle s'étendit, tira les draps sous son menton, jusqu'à ce qu'il ne fisse plus un pli, en pressant sur ses seins vides le crucifix. Puis, en femme décidée, le nez pincé, le regard fixe, prête à partir, elle attendit. Mais sans doute que ces vieux os, avant de connaître le repos, devaient passer, une dernière fois, afin d'être purifiés, par la misère. Le feu de la terre, c'est notre lot. Car juste à ce moment, la porte d'à côté s'ouvrit, et dans la chambre, se précipitant, l'hôtesse d'une voix haletante cria « Vite, venez, maître Colas !» Sans comprendre, je demandai « Qu'y a-t-il ? Parlez plus bas !» Mais elle, sur son lit, qui pour le grand voyage était partie déjà, comme si du haut du coche où elle venait de monter, elle pouvait, se retournant, voir par-dessus nos têtes ce que je ne voyais pas, elle se redressa de sa couche funèbre, roide comme celui que Jésus réveilla, tendit les bras vers nous et cria « Ma Glaudie !» À mon tour, je compris, transpercé par ce cri et par la rauque toux qui venait d'à côté. Je courus. Je trouvai ma pauvre petite alouette qui, la gorge serrée, cherchant de ses menottes à desserrer l'étreinte, toute rouge et brûlante, implorait de ses yeux effarés du secours et qui se débattait comme un oiseau blessé. Ce que fut cette nuit, je ne puis le raconter. À présent que j'en suis à 5 jours bien comptés, de me la remémorer, j'ai les jambes cassées. Il faut que je m'assoie. Ah ! Laissez-moi souffler. Faut-il qu'il y ait au ciel un maître qui se complaise à faire lentement souffrir ces petits êtres, à sentir sous ses doigts leur frêle cou craqué, à les voir se débattre et pouvoir supporter leur regard de reproche étonné? Je comprends qu'on étrille de vieux ânes comme moi, que l'on fasse du mal à qui peut se défendre, des gars solides, des femelles rablées. Que vous vous amusiez à nous faire crier, si vous pouvez, bon Dieu, essayez. L'homme est à votre image. Que vous soyez, comme lui, pas très bon tous les jours, capricieux, malicieux, et m'ennuire de temps en temps par besoin de détruire, d'éprouver votre force par âcreté de sang, parce que vous êtes mal luné ou bien par passe-temps. Cela ne m'étonnerait pas, en somme, énormément. Nous sommes d'âge, Ouida, à vous tenir tête. Quand vous nous ennuyez, nous savons vous le dire. Mais prendre comme cible des pauvres agnelés dont on tordrait le nez, ils sortiraient du lait, halte là! Non, c'est trop, nous ne l'admettons pas. Dieu ou roi, qui le fait outrepasse ses droits. Nous vous en prévenons. Seigneur, l'un de ces jours, si vous continuez, nous serions obligés, à notre grand regret, de vous découronner. Mais je ne veux pas croire que ce soit là votre œuvre. Je vous respecte trop. Pour que de tels forfaits soient possibles, notre Père, il faut de 2 choses l'une. Ou vous n'avez pas Dieu, ou vous n'existez pas. Aïe, voilà un mot incongru, je le retire. La preuve que vous existez, c'est que nous divisons tous deux en ce moment. Que de discussions nous avons eues ensemble. Et entre nous, monsieur, combien de fois je vous ai réduit au silence? Dans cette nuit néfaste, vous ai-je assez appelé? Injurier, menacé, nié, prié, supplié? Vous ai-je assez tendu mes mains jointes et montré mon poing fermé? Cela n'a servi de rien, vous n'avez pas bronché. Du moins, vous ne pouvez dire, afin de vous toucher, que j'ai rien négligé. Et puisque vous ne voulez, bon sang, que vous ne daignez m'écouter, serviteur, Tant pis pour vous, seigneur. Nous en connaissons d'autres. Nous nous adresserons ailleurs. » J'étais seule pour veiller avec la vieille hôtesse. Martine, qu'avait prise en route les douleurs de Gésine, était restée à Dornecy, laissant Glody à la grand-mère. Quand nous vîmes au matin que notre petite martyre allait passer, nous prîmes les grands moyens. J'enlevai dans mes bras son mignon corps brisé, pas plus lourd qu'une plume. Il n'avait plus la force même de se débattre, et la tête pendante avec des soubresauts, il palpitait à peine ainsi qu'un passereau. Je regardai par la fenêtre. Il faisait vent et pluie. Une rose sur sa tige se penchait à la vitre, comme si elle voulait entrer. Annonce de la mort. Je fis le signe de croix, et malgré tout sortis. L'humide vent violent s'engouffra dans la porte. Je cachai sous ma main la tête de mon oiselle, de peur que la bourrasque ne soufflât sa chandelle. Nous allions. Devant marchait l'hôtesse qui portait des présents. On entra dans les bois qui bordaient le chemin, et nous vîmes bientôt, sur le bord d'un marais, un tremble qui tremblait. Sur un peuple de joncs aux reins souples, il régnait, haut et droit comme une tour. Nous en fîmes une fois, deux fois, trois fois le tour. La petite gémissait, et levant dans les feuilles, comme elle, des dents claquaient. À la menotte de l'enfant, nous nouâmes un ruban, l'autre bout à un bras du vieil arbre tremblant. Et l'hôtesse édentée et moi, nous répétions « Tremble, tremble, mon mignon, prends mon frisson, je t'en prie et je t'en somme par les personnes de la Sainte Trinité. Mais si tu fais l'entêté, si tu ne veux m'écouter, garde à toi, te trancherai. » Puis, entre les racines, la vieille fit un trou, versa une chopine de vin, deux gousses d'ail, une tranche de lard, et par-dessus mit un liard. Trois tours encore nous fîmes autour de mon chapeau, posé à terre et bourré de roseaux. Et au troisième tour, nous crachâmes dedans, en répétant « Crapaud croupissant accroupi, que le croupe vous estouffe !» Ensuite, nous en retournant, à la sortie du bois, nous agenouillâmes devant une aubépine. Au pied, nous mîmes l'enfant, et par la sainte épine, priâmes le Fils de Dieu. Lorsque nous rentrâmes enfin à la maison, la petite semblait morte. Du moins, nous avions fait tout ce que nous pouvions. Pendant ce temps, ma femme, elle, ne voulait pas mourir. L'amour de sa Glody l'attachait à la vie. Elle se démenait, criait. « Non, je ne m'en irai pas, bon Dieu, Jésus-Marie, avant que je ne sache ce que vous voulez en faire. Et si oui ou non, elle doit être guérie. » Guérie, elle le sera, vertu Dieu, je le veux. Je le veux, je le veux et je le veux, c'est dit. » Ce n'était pas encore dit, sans doute, tout à fait. Car après l'avoir dit, elle recommençait. Dieu, quel souffle elle avait! Et moi, qui tout à l'heure croyais qu'elle était près de rendre le dernier. Si c'était le dernier, il avait belle taille. Brugnon, mauvais garçon, tu ris, n'as-tu pas honte? « Que veux-tu, mon ami? Je suis ce que je suis. Rire ne m'empêche pas de souffrir. Mais souffrir n'empêchera jamais un bon Français de rire. Et qu'il rie ou larmoie, il faut d'abord qu'il voie. Vive Janus Bifron, aux yeux toujours ouverts. » Donc, je n'en avais pas moins de peine à l'écouter s'essouffler, essouffler la pauvre vieille commère. Et malgré que je fusse aussi angoissée qu'elle, je voulais la calmer. Je lui disais des mots comme on dit aux enfants, et je l'emmaillotais dans ses draps, gentiment. Mais elle se dégageait, furieuse, en criant « Bon à rien, si tu étais un homme, n'aurais-tu pas trouvé moyen de la sauver, toi? À quoi sers-tu? C'est toi qui devrais être mort !» Je répondais « Ma foi, je suis de ton avis, ma vieille, tu as raison. Si quelqu'un en voulait, je donnerais ma peau, mais probable que là-haut elle ne fait pas l'affaire. » Elle est usée, a trop servi. On est plus bon, c'est vrai, comme toi, qu'à souffrir. Souffrons donc, sans parler. Peut-être ce sera autant de prix, autant de moins, que la pauvre innocente elle aura apporté. » Alors sa vieille tête contre la mienne s'appuya, et le sel de nos yeux se mêla sur nos joues. Dans la chambre, on sentait peser l'ombre des ailes de l'archange funèbre. Et soudain, il partit. La lumière revint. Qui causa ce prodige? Fût-ce le Dieu d'en haut, ou bien ceux des forêts? Mon Jésus pitoyable à tous les malheureux, ou la terre redoutable qui souffre et boit les maux? Fût-ce l'effet des prières, ou la peur de ma femme, ou bien parce qu'au tremble j'avais graissé la patte? Nous ne le saurons jamais. Et dans l'incertitude, je rends grâce, c'est plus sûr, à toute la compagnie, en y ajoutant même ceux que je ne connais point. Ce sont peut-être les meilleurs. En tout cas, le certain est le seul qui m'importe. C'est depuis ce moment que la fièvre tomba. Le souffle circula dans le frêle gosier comme un ruisseau léger. Et ma petite morte, échappant à l'étreinte de l'archange, ressuscita. Nous sentîmes se fondre alors notre vieux cœur. Tous deux, nous entonnâmes le « Nunc dimittis, Seigneur ». Et ma vieille, s'affaissant avec des pleurs de joie, laissa sur l'oreiller sa tête retomber, comme une pierre qui s'enfonce, et soupira « Enfin, je puis donc m'en aller ». Aussitôt son regard chavira, sa face se creusa, comme si d'un coup de vent son souffle l'avait quitté. Et moi, penchée sur son lit, où elle n'était plus, je regardais ainsi qu'au fond d'un trou dans la rivière, où la forme d'un corps qui vient de disparaître reste un instant empreinte et s'efface en tournant. Je fermais ses paupières, baisais son front cireux, j'enchaînais l'une à l'autre ses mains de travailleuse qui ne s'étaient jamais reposées en leur vie. Et sans mélancolie, laissant la lampe éteinte dont l'huile était brûlée, j'allais m'asseoir auprès de la flamme nouvelle qui devait maintenant éclairer la maison. Je la regardais dormir, je la veillais, avec un sourire attendri, et je pensais, se peut-on défendre de penser? N'est-il pas bien étrange que l'on s'attache ainsi à cette petite chose? Sans elle, rien ne nous est. Avec elle, tout est bien, même le pire, qu'importe. Ah, je puis bien mourir, que le diable m'emporte, pourvu qu'elle vive, elle, je me moque du reste. C'est tout de même un peu fort. Quoi? Je suis là, je vis et je suis bien pourtant, maître de mes 500 et de quelques autres en plus, et du plus beau de tous, qui est, monsieur, mon bon sens. Je n'ai jamais boudé la vie, et je porte en mon ventre 10 aunes de boyaux vides toujours pour la fêter. Tête saine, main précise, jarret solide et du mollet. Brave ouvrier et bourguignon salé. Et je serai tout prêt à sacrifier cela pour un petit animal que je ne connais même pas. Car enfin, qu'est-il donc? Un trognon mignon, un jouet gentillet, perroquet qui cessait, un être qui n'est rien, mais qui sera peut-être. Et c'est pour ce peut-être que je dilapiderai mon... Je suis, et j'y suis bien, pardi. Ah, c'est que ce, peut-être, c'est ma plus belle fleur, celle pour qui je vis. Quand les vers se seront empiffrés de ma chair, quand elle aura fondu dans le gras cimetière, je revivrai, Seigneur, en un autre moi-même, plus beau, plus heureux et meilleur. Et qu'en sais-je? Pourquoi vaudrait-il mieux que moi? Parce qu'il aura mis ses pieds sur mes épaules? Et qu'il verra plus loin, marchant sur mon tombeau. Oh, vous, sortis de moi, qui boirez la lumière, où mes yeux qui l'aimaient ne se baigneront plus. Par vos yeux, je savoure la vendange des jours et des nuits à venir. Je vois se succéder les années et les siècles. Je jouis tout autant de ce que je pressens que de ce que j'ignore. Tout passe autour de moi, mais c'est que, moi, je passe. Je vais toujours plus loin, plus haut, porté par vous. Je ne suis plus lié à mon petit domaine. Au-delà de ma vie, au-delà de mon champ, s'allongent les sillons. Ils embrassent la terre, ils enjambent l'espace. Comme une voie lactée, ils couvrent de leur réseau toute la voûte azurée. Vous êtes mon espérance, mon désir et mon grain, qu'à travers l'infini je sème à pleine main.